Chapitre 27. Laurie Landgren eut beau rester longtemps sous la douche et se shampouiner les cheveux à plusieurs reprises, elle se sentait sale. Sous l'effet de l'eau brûlante, elle était rouge de la tête aux pieds, mais elle n'arrivait pas à chasser l'impression de froid qui lui comprimait la poitrine et tremblait de tous ses membres. Sa mère lui tendit un drap de bain, prête à l'éponger. Laurie aurait préféré se sécher elle-même, ainsi qu'elle le faisait depuis une éternité. Mais elle comprenait la réaction maternelle. Sa mère en avait besoin. Il lui fallait s'assurer que son aînée était vivante, qu'elle était indemne, et Laurie se laissa faire. Sa mère n'arrêtait pas de lui promettre qu'ils allaient tout mettre en œuvre pour ne plus jamais vivre des heures aussi terrifiantes, que tous les adultes du ranch seraient désormais armés, que Laurie et ses sœurs n'iraient plus en classe et poursuivraient leurs études à la maison où personne ne pourrait plus les atteindre tant que Jane Hawke n'aurait pas lavé son honneur en dénonçant les agissements de ces salopards avides de pouvoir. La mère de Laurie n'était pas du style à se laisser attendrir facilement. Elle avait d'ailleurs les yeux secs. Elle n'en était pas moins folle de rage contre ces gens qui avaient violé l'intimité de son foyer, tout en se montrant douce et attentionnée avec Laurie. Cette dernière la sentait inquiète et voyait bien qu'elle s'efforçait de camoufler sa peur. Laurie avait beau être secouée, elle avait tout de suite perçu le désarroi de sa mère. Ses parents étaient les deux personnes qu'elle admirait le plus au monde, au point de leur accorder toute sa confiance. Elle les observait à leur insu, dans l'espoir de comprendre comment ils avaient pu devenir aussi formidables. Elle y avait gagné le sentiment de savoir quel adulte elle souhaitait devenir à terme, consciente que la route était encore longue. La mère de Laurie ne mentait jamais. Mais comment pouvait-elle avoir l'assurance que le drame de cette nuit ne se reproduirait jamais? Papa et maman ne parlaient pas à tort et à travers, sans afficher la moindre arrogance pour autant. Ce que la mère de Laurie avait voulu dire, c'est qu'elle donnerait sa vie pour que des voyous comme ceux-là ne puissent plus prendre les siens pour cible. Laurie enfila un pyjama et s'assit sur le banc de la salle de bain pendant que sa mère la peignait et lui séchait les cheveux. Puis elle se laissa border dans son lit. Laurie devait bien reconnaître qu'elle avait envie que sa mère remonte les couvertures jusqu'à son menton, qu'elle l'embrasse sur le front et la joue. Ce n'est qu'en voyant sa mère s'asseoir à côté de son lit pour la regarder dormir qu'elle réagit.
« Je t'aime et j'aurai toujours besoin de toi. Mais Daphné et Artemis sont encore petites et elles ont encore plus besoin de toi. »
Sa mère se pencha vers elle et posa une main sur son front, comme si elle avait la fièvre.
« Tu verras, tout ira bien. »
« Je sais, maman. Avec toi et papa et Daphné et Artemis et tous les chevaux, je serais idiote de penser le contraire. »
Maman repartit. Ce fut au tour de papa de s'asseoir sur son lit.
« Si tu savais comme je suis désolée, ma chérie. »«
Dieu sait à quel point je suis désolée, mais tu... »«
Tu as été formidable cette nuit. »
Papa s'était fait avoir par une bande de sales voyous armés qui faisaient partie du FBI, ou peut-être pas, mais qui avaient en tout cas de vrais badges du bureau. Et il n'avait rien à se reprocher puisqu'il avait respecté la loi. Ça ne l'empêchait pas de s'en vouloir d'avoir sous-estimé ses ripoux. Il leur en voulait de leur avoir laissé le champ libre, de s'être laissé ligoter. Papa n'était pourtant pas une mauviette, aucun doute là-dessus. Mais c'était avant tout un gars bien. Et tout le monde sait que les méchants ont tendance à profiter des gens bien, justement parce qu'ils sont bien. Elle se redressa dans son lit et serra son père fort contre elle, alors qu'elle n'en pouvait plus après toutes ses émotions. Jamais elle ne l'avait serré aussi fort de toute sa vie. Elle ne lui laissa pas le temps d'ouvrir la bouche. Elle non plus n'avait rien à dire. Il savait qu'il s'aimait. Et puis les Texans ne sont pas du genre à perdre leur temps en palabres inutiles. Papa régla au minimum le rhéostat de sa lampe de chevet au lieu de l'éteindre. Elle n'aurait pourtant rien dit s'il l'avait laissée dans le noir. Laurie n'avait pas peur du noir, sachant que c'est idiot d'avoir peur du noir. Ce n'est pas le noir qu'il faut redouter dans la vie, mais les personnes vicieuses qui veulent tuer les autres. Et elle était contente qu'il ait laissé la lampe allumée parce qu'elle pourrait le voir quand il se retournerait, au moment de franchir le seuil de sa chambre. Lui aussi pourrait la voir, et elle lui sourirait, car elle se doutait qu'il avait besoin de la voir sourire. Elle attendit qu'il ait refermé la porte pour baisser les paupières. Dans le noir de sa tête,
Laurie vit apparaître avec une netteté incroyable le visage de Janice. Un visage déformé par la méchanceté, les yeux brillants à la lueur des ampoules du grenier, qui lui glissaient dans un murmure vipérin.
« Mon petit animal domestique préféré !»
Laurie rouvrit les yeux. Elle ne s'était jamais sentie aussi lasse de sa vie. Elle avait mal partout, dans son corps comme dans son cœur et dans sa tête, mais elle ne parvenait pas à ne plus penser. Elle avait cru comprendre que la mère de Jane Hawke s'était suicidée quand Jane était petite. Son père était un pianiste célèbre qui donnait des concerts dans le monde entier. Elle l'avait entendu dimanche soir à la télévision dire que sa fille unique était malade mentale ou une connerie du même acabit. À l'insu de ses parents, Laurie les avait entendus un jour discuter de Martin Duroc, le père de Jane. Il disait que sa première femme ne s'était pas suicidée en vrai, que c'était lui qui l'avait tuée et qu'il s'en était tiré sans une égratignure, mais que Jane était au courant depuis toujours, qu'elle l'avait entendu le soir du drame, mais qu'elle n'avait rien pu prouver. Laurie trouvait ça effrayant. Janice et Jane. Elles avaient grandi toutes les deux dans des familles de tarés, mais comment pouvait-on réagir de façon aussi différente? La première était une criminelle endurcie, alors que la seconde mettait sa vie en jeu pour combattre la méchanceté du monde. Laurie et Bonnie Jean Henny, sa meilleure amie, avaient des parents formidables, de sorte qu'elles n'avaient aucune raison de mal tourner. Cela dit, on ne savait jamais. Qui sait si l'une d'elles ne deviendrait pas une cinglée totale, alors que l'autre s'engagerait chez les Marines, par exemple. Et ses sœurs, Daphné et Artemise. Était-il possible que l'une ou l'autre commette des hold-up ou fasse sauter des églises quand elle serait grande? Elle frissonna à cette seule pensée, perturbée à l'idée que l'éducation ne change rien au destin des gens. Janice venait d'une famille pourrie. Et elle avait voulu s'en échapper, ce qui ne l'avait pas empêchée de devenir pourrie à son tour. Quelle tristesse. Triste ou pas, Janice était morte, et c'était aussi bien comme ça. Laurie se posait plein de questions, mais il ne lui serait pas venu à l'idée de regretter la mort de Janice. Morte la bête, mort le venin, alléluia. Si jamais, en dépit de toutes ses bonnes résolutions, Laurie Lundgren devenait un monstre, elle serait contente que quelqu'un la batte. Elle finit par s'endormir et fit un rêve dans lequel, devenue grande, elle était aussi mauvaise que Janice, alors que celle-ci était une petite fille innocente dont le seul défaut était de dire « merde de cheval » un peu trop souvent. Elles se trouvaient toutes les deux dans la véranda et Laurie essayait de chasser les pompiers volontaires pour pouvoir tuer tranquillement la petite Janice. Le tireur de l'hélicoptère abattait Laurie d'une balle dans la tête. Elle essayait d'en ramasser tous les morceaux pour les recoller. Mais il manquait un gros morceau de crâne et une bonne partie de la cervelle. L'un de ses yeux avait volé et elle n'arrivait pas à le retrouver. Bien qu'elle fût un monstre, elle essayait désespérément de ramasser toutes les pièces du puzzle de sa tête éclatée, en répétant à l'infini « Je ne voulais pas, c'était un mensonge, rien que de la merde de cheval, je ne veux pas qu'on me tue. » Elle finit par se réveiller, des larmes plein les yeux, incapable de stopper ses pleurs. Elle s'enfouit la tête dans l'oreiller pour étouffer ses sanglots et pleura très longtemps, dans l'espoir de tarir un jour l'immense tristesse qui l'étouffait. Elle pleurait pour avoir compris qu'il ne servait à rien de vouloir épuiser son stock de larmes, car les pleurs feraient désormais partie de son quotidien jusqu'à la fin de ses jours, au même titre que le rire. Ou l'espoir.